Chapitre 36. Des lames. Mine se demanda si elle devait grogner, crier ou s'asseoir et éclater en sanglots. Les yeux ronds, Caroline semblait se poser la même question. Hilar, Thoram se frotta les mains.
Écoutez tous, lança-t-il. Vous allez voir un sacré spectacle. Faites de la place! De la place!
Il se chargea lui-même de chasser les invités du milieu de la tente.
« Berger !»
souffla Mine.
« Tu n'as pas un pois chiche à la place du cerveau, parce que ton crâne est vide, tout simplement. Je ne présenterai pas les choses ainsi, »
fit Caroline, d'un ton très sec.
« Mais je suggère que vous partiez. Thomas, quels que soient les trucs auxquels tu envisages de recourir, je te signale qu'il y a 7 Aes Sedai sous ce pavillon, dont 4 sœurs rouges venant du sud et en chemin pour Tarvalon. Si l'une d'entre elles a des soupçons, j'ai bien peur que ta visite n'ait aucune conséquence, parce que tu ne seras plus de ce monde. File ! Je n'aurai pas besoin de trucs,
dit Rand. Il déboucla son ceinturon et le tendit à Mine.
Si j'ai réussi à vous toucher, toi et Darline, je devrais avoir également une chance avec Thoram.
La foule avait reculé, dégageant au centre de la tente un espace circulaire d'environ 20 pas de diamètre. Après avoir regardé Rand, certains curieux se flanquèrent des coups de coude dans les côtes en riant. Bien entendu, les Aes Sedai eurent droit aux meilleures places, Katswane et ses deux compagnes se plaçant d'un côté, face à 4 autres sœurs en châle aux franges rouges. Alors que Katswane et ses amis regardaient Rand sans cacher leur désapprobation, ni une certaine irritation quand on savait bien regarder, les sœurs rouges semblaient surtout se soucier de leurs collègues. Bien que leur faisant face, elles paraissaient ne pas les voir, ce qui en disait très long sur leur défiance. Pour être aveugles à ce point, il fallait qu'elles produisent un gros effort.
« Écoute-moi, cousin !»
souffla Caroline, l'air angoissé. Elle était tout près de Rand, le cou tendu pour le regarder dans les yeux. Alors qu'elle lui arrivait à la poitrine, on eût dit qu'elle était prête à lui frictionner les oreilles.
« Tu ne recours pas à un de tes trucs spéciaux. Thoram peut te faire très mal, même avec une épée d'entraînement. Et il ne s'en privera pas. Il déteste qu'on touche à ce qui lui appartient. Selon lui, en tout cas. Et il soupçonne chaque beau jeune homme qui s'adresse à moi d'être mon amant. Quand nous étions enfants, il a poussé dans un escalier un de ses amis. De ses amis, oui. Parce qu'il avait osé monter son poney sans autorisation. Le pauvre Derowin s'est brisé l'échine. Va-t'en, cousin. Personne ne te jugera mal. Un gamin n'a rien à gagner face à un maître de la lame. Jaycee, quel que soit ton vrai nom, aide-moi à convaincre ce garçon.
Mine ouvrit la bouche, mais Rand lui posa un index sur les lèvres.
Je suis qui je suis,
dit-il en souriant.
Et même si j'étais quelqu'un d'autre, je crois que je relèverai le défi. Un maître de la lame. Intéressant.
Rand déboutonna sa veste, puis avança dans la zone dégagée.
Pourquoi sont-ils si têtus au pire moment ?
Soupira Caroline. Si elle n'avait pas la réponse, Mine partageait l'analyse. En bras de chemise, Thoram avança, avec dans les mains 2 épées d'entraînement, à la lame composée de fines lattes de bois. Voyant que Rand avait simplement ouvert sa veste, il arqua un sourcil.
« Tu te sentiras à l'étroit là-dedans, cousin »
lâcha-t-il. Puis il lança une épée à Rand, qui la rattrapa au vol.
« Cousin, avec ses gants, la poignée glissera. Il faut pouvoir serrer convenablement son arme. »
Rand saisit l'épée à 2 mains et se mit en garde. Thoram écarta les bras, comme pour dire qu'il avait fait tout son possible.
« Au moins, il connaît la position de départ »
plaisanta-t-il. Sur ces mots, il bondit, son arme factice s'abattant avec toute la puissance dont il était capable. Un coup susceptible de faire des dégâts, même avec une épée en bois. Sans que ses pieds bougent d'un pouce, Rand para l'attaque en déplaçant seulement son épée. Surpris, Thoram le regarda un moment. Puis les 2 hommes commencèrent à danser. Le seul verbe qui venait à l'esprit de Mine devant ce spectacle. Elle avait souvent vu Rand s'entraîner face aux meilleurs adversaires qu'il pouvait dénicher, en affrontant parfois 3 ou 4 en même temps. Mais ce combat était totalement différent. Une démonstration si fascinante qu'on oubliait aisément que les armes, si elles avaient été réelles, auraient servi à faire couler le sang. Cela dit, ces lames-là ne touchaient jamais la chair. Leur balai d'une incroyable précision, les 2 escrimeurs attaquaient et défendaient chacun à leur tour, chaque mouvement finissant par l'inévitable rencontre de 2 lames. Sans quitter des yeux le fabuleux duel, Caroline prit le bras de Mine.
« Il est aussi un maître de l'épée, »
souffla-t-elle.
« Il ne peut pas en être autrement. » « Regarde-le !»
Mine ne perdait pas une miette du spectacle, serrant l'épée et le fourreau de Rand,
comme si c'était lui qu'elle étreignait. Les attaques et les parades s'enchaînaient, et quoi qu'ait pu en penser Rand, Thoram devait déjà regretter que leur lame ne soit pas en acier. Pris d'une colère froide, il chargeait comme un taureau. Les coups continuaient d'être déviés ou bloqués, mais Rand reculait presque en permanence, comme s'il ne parvenait pas à contenir la fureur de son adversaire. Dehors, quelqu'un poussa un cri d'horreur. Puis, en un clin d'œil, le pavillon se souleva et s'envola pour disparaître dans la grisaille qui occultait le ciel. Un épais brouillard, d'où montaient des hurlements, enveloppa tout, ses tentacules tourbillonnant dans la zone dégagée laissée par la disparition de la tente. Tous les regards s'étaient levés vers le ciel. Enfin, tous, sauf un. La lame de Thoram s'abattit sur un flanc de Rand, lui aussi occupé à regarder en l'air, et l'impact le força à se plier en deux.
« Tu es mort, cousin !»
lança Thoram. Il leva son arme pour frapper encore, et se pétrifia, quand il vit du coin de l'œil qu'il n'y avait plus rien au-dessus de sa tête. Un tentacule de brouillard, semblable à une grande patte à trois griffes, s'enroula autour de la sœur rouge rondelette, et la souleva dans les airs avant que quiconque ait pu réagir. Kat Swanee fut la première à se ressaisir. Levant les bras, elle tordit bizarrement les mains, projetant vers le haut deux boules de feu qui s'enfoncèrent dans le brouillard. Quelques secondes plus tard, il y eut un éclair très vif. Puis la sœur rouge réapparut, tombant littéralement du ciel, et atterrit face contre le tapis, non loin de l'endroit où Rand, appuyé sur un genou, se massait lentement le flanc. Face contre le tapis? Non, pas vraiment. La Aes Sedai morte fixait le ciel sans le voir. Cette vision eut raison du peu de sang-froid que conservaient encore les invités. Les ténèbres s'étaient faites chair. Terrorisés, des femmes et des hommes se mirent à courir en tous sens, renversant les tables. Dans la cohue, les nobles jouaient des coudes pour faire dégager les serviteurs, qui ne s'en laissaient pas compter. Dans la bousculade, Mine se fraya un chemin jusqu'à Rand, en jouant elle aussi des coudes, puis en utilisant l'épée du jeune homme comme une massue.
« Tu vas bien ?»
demanda-t-elle, en aidant son ami à se relever. Très surprise, elle vit que Caroline, qui semblait se demander pourquoi elle agissait ainsi, le soutenait sur son autre flanc. Rand sortit de sous sa veste, une main par bonheur vierge de toute trace de sang. Sa cicatrice, toujours pas vraiment guérie, ne s'était pas rouverte. Un miracle.
« Nous devrions bouger, et vite !»
dit-il, en saisissant son ceinturon d'armes.
« Il faut sortir d'ici !»
La zone s'embrouilla, rétrécissait de seconde en seconde. Presque tout le monde en était sorti à présent. À l'extérieur, des cris déchiraient régulièrement le silence, s'interrompant très brusquement.
« Je suis d'accord avec toi, Thomas !»
lança Darline. Épée au poing, il se plaça dos contre celui de Caroline, pour lui faire un bouclier de son corps.
« Mais dans quelle direction aller ? Et jusqu'où courir pour échapper à ce brouillard ?»« C'est son œuvre !»
s'écria Thoram.
« Ce maudit Altor !»
Jetant son épée factice, il alla ramasser sa veste et commença très calmement à l'enfiler. Quoi qu'on puisse dire de lui, ce n'était pas un couard.
« Gérald ! »
cria-t-il, tout en bouclant son ceinturon.
« Gérald ! Que la lumière te brûle ! Où es-tu ? »
Mordette ne répondant pas, il continua à l'appeler. Là où s'était dressé le pavillon, il ne restait plus que Rand, Mine, Caroline, Darline, Thoram et Kat Swanee, toujours flanqués de ses deux compagnes. Très calmes en apparence, les deux sœurs jouaient néanmoins nerveusement avec leur châle. Kat Swanee, elle, aurait tout aussi bien pu être en train de siroter une infusion dans son salon.
« Le nord serait indiqué, »
dit-elle.
« De ce côté-là, la pente est plus proche. Et au sommet, nous serons peut-être sortis du brouillard. » Thoram, arrête de beugler! Si ton séide n'est pas mort, c'est qu'il est sourd comme un pot!
Thoram foudroya la Aes Sedai du regard, mais il cessa de crier. Apparemment, ça suffit pour satisfaire Kat Swanee, qui se désintéressa de lui.
Vers le nord, donc. Nous trois, nous nous chargerons de tout ce que l'acier ne pourra pas éliminer.
En prononçant ces mots, elle avait braqué son regard sur Rand, qui hocha simplement la tête. Son ceinturon bouclé, il dégaina son arme. Espérant qu'elle cachait mieux sa stupéfaction, Mine échangea un regard interloqué avec Caroline, dont les yeux étaient ronds comme des billes. La sœur savait qui était Rand, et elle ferait en sorte que personne d'autre ne la prenne.
« Je regrette vraiment que nous ayons laissé nos champions en ville, »
soupira la mince sœur jaune. Elle secoua la tête, faisant tintinabuler les clochettes qui décoraient ses cheveux. Son air, presque aussi autoritaire que celui de Kat Swanee, réussissait à occulter son incontestable beauté. Mais sa façon de bouger la tête avait trahi un certain agacement qui collait mal avec le reste.
« J'aimerais que Roshan soit avec moi. »« Que dirais-tu de former un cercle, Kat Swanee ?»
demanda la sœur grise.
tournant la tête à droite et à gauche pour sonder le brouillard, avec son nez pointu et ses yeux perçants, elle ressemblait à un moineau dodu. Pas vraiment effrayée, mais prêt à prendre son envol.
« Devons-nous nous lier ?»« Non, Nyande, »
répondit Katsuane.
« Si tu repères quelque chose, tu dois être en mesure de frapper, sans attendre de m'avoir montré ta cible. Samitsu, cesse de te lamenter au sujet de Roshan. Nous avons avec nous trois fines lames, dont deux portent la marque du héron, si mes yeux ne me trompent pas. Ce sera suffisant. »
Thoram dévoila ses dents dès qu'il vit le héron gravé sur l'épée que Rand venait de dégainer. Si c'était censé être un sourire, il n'avait rien de joyeux. La propre lame du seigneur était ornée d'un héron, pas celle de Darlin. Mais le regard qu'il posa sur Rand et sur son arme, suivi d'un signe de tête respectueux, montra que son opinion sur Thomas Strakhand, prétendument un noble mineur, venait d'être réévaluée à la hausse, très nettement. À l'évidence, Katsuane avait pris les choses en main, et elle n'avait pas l'intention de les lâcher, malgré les protestations de Darlin, comme tous les terriens, il ne portait pas les Aes Sedai dans son cœur, et de Thoram, qui semblait tout simplement estimer qu'il lui revenait de droit de donner des ordres. Caraline ne semblait pas ravie non plus, mais Katsuane l'ignora, aussi superbement qu'elle dédaigna les deux hommes. Plus fine qu'eux, la noble dame semblait avoir compris que contester ne servirait à rien. Miracle de miracle, Rand ne mouveta pas quand l'Aes Sedai, assignant à chacun sa position, lui ordonna de se placer sur sa droite. Cela dit, il gratifia quand même la sœur du genre de regard hautain qui donnait immanquablement envie à Mine de le gifler. Katsuane se contenta de secouer la tête et de marmonner quelques mots qui firent monter le rouge aux joues de Rand. Au moins, ça lui riva son clapet. Un instant, Mine avait eu peur qu'il crie à tue-tête sa véritable identité, avec l'espoir, pourquoi pas, que le brouillard se dissipe, terrorisé par le dragon réincarné. D'ailleurs, Rand sourit à Mine, comme si l'apparition d'un peu de brume, par un temps estival, n'avait rien d'anormal. Même une brume qui arrachait les tentes du sol et enlevait des gens. Les fugitifs entrèrent dans le brouillard en formation d'étoiles à six branches. Katsuane en tête, les Aes Sedai sur ses flancs, et un homme armé d'une épée sur les trois pointes de derrière. Comme c'était prévisible, Thoram jugea indigne de lui de fermer la marche. Grâce à un discours fumeux sur l'honneur d'être choisi pour former l'arrière-garde, Katsuane parvint à le calmer. Placé avec Caraline au centre de l'étoile, Mine ne trouva rien à redire à cette position. Un couteau dans chaque main, elle se demanda à quoi ses armes pourraient bien lui servir, face à du brouillard. Voir une dague trembler dans la main de Caraline fut une source de soulagement pour Mine. Au moins, cette humiliation lui était épargnée. Cela dit, elle avait peut-être simplement trop peur pour trembler. Le brouillard était glacial. Tourbillonnant autour des fugitifs, il les empêchait de se voir clairement. Heureusement, enfin façon de parler, on entendait très bien dans cette purée de poids. Des cris d'hommes, de femmes et de chevaux continuaient à retentir, mais un peu étouffés par la brume, ils semblaient plus lointains qu'ils l'étaient en réalité. Quand la brume commença à s'épaissir devant elle, Katsuane lança de nouvelles boules de feu, qui explosèrent et déchirèrent ce rideau oppressant. Les deux autres sœurs entrèrent aussi dans la partie, lançant des éclairs sur les deux côtés de la nappe de brouillard. Sans regarder derrière elle, Mine continua à avancer, passant devant des tentes écrabouillées, des cadavres enveloppés de brume, et des morceaux de corps qui auraient dû l'être aussi, mais restaient bien trop visibles. Une jambe, un bras, un tronc d'homme, sans rien au-delà de la taille. Une tête de femme, posée sur un chariot renversé, et qui semblait sourire à on ne savait trop qui. Alors que le sol commençait à monter, Mine vit le premier être vivant qu'il croisait depuis le début. Très vite, elle regretta cette rencontre. Un homme en veste rouge avançait en titubant et en agitant faiblement le bras gauche. Le droit avait été arraché, comme une moitié du visage de ce malheureux. Quand il essaya de parler, une écume sanglante sortit de ce qui restait de sa bouche, et il s'écroula. Samitsu s'agenouilla près de lui, posa les mains sur son front dévasté et secoua la tête. Puis elle se releva, et le petit groupe se remit en chemin. L'ascension s'éternisant, Mine se demanda s'il gravissait une colline ou une montagne. Devant Darlin, le brouillard prit soudain une forme vaguement humaine, la taille surtout, mais avec une multitude de tentacules et plusieurs gueules garnies de crocs acérés. S'il n'était pas un maître de l'épée, le seigneur n'avait rien non plus d'un lourdeau sans réflexe. Frappant à la vitesse de l'éclair, il coupa en deux la créature. Plus épais que le brouillard environnant, quatre nuages de brume tombèrent sur le sol.
« Comme ça, nous savons que l'acier peut blesser ces... monstres. »
Les quatre parties de la créature se rapprochèrent et se fondirent de nouveau les unes aux autres. Katsuane tendit une main et lança des gouttelettes de feu, qui désintégrèrent l'abomination.
« Blessé !»
dit-elle.
« Mais pas plus, semble-t-il. »
Sur la droite de l'étoile, une femme jaillit soudain de la brume, l'ourlet de sa robe remonté pour lui permettre de courir plus vite.
« La lumière soit remerciée !»
cria-t-elle.
« Oui, remerciée ! Je croyais être la seule survivante !»
Dans son dos, le brouillard prit la forme d'une monstruosité tout en crocs et en griffes. S'il s'était agi d'un homme, Rand aurait attendu. Mine en eut la certitude. Il leva une main avant que Katsune ait pu broncher, et une barre de feu blanc liquide plus brillant que le soleil en fusa, passa au-dessus de la femme et percuta le monstre, qui disparut en un clin d'œil. Comme s'il n'avait jamais été là, l'air devenant un instant limpide là où il s'était tenu, avant de s'obscurcir de nouveau. D'abord pétrifiée, la femme cria ensuite à s'en casser les cordes vocales, puis elle s'enfuit à toutes jambes. Dans la mauvaise direction, mais elle avait eu bien trop peur pour s'en apercevoir.
« Toi !»
rugit Thoram. Se retournant, ses couteaux brandis, Mine vit que le seigneur menaçait Rand avec son épée.
« C'est toi, Hathor ! J'avais raison. Cette horreur est ton œuvre. Mais tu ne me piégeras pas. Non ! Tu ne me piégeras pas !»
Thoram abandonna sa position et se mit à gravir la pente un peu en oblique par rapport à l'étoile.
« Reviens !»
lui cria Darline.
« Nous devons rester groupés ! Il faut... »
Il se tut, dévisageant Rand.
« C'est toi, pas vrai ? Que la lumière me brûle. Tu es Randaltor !»
Il fit mine de se placer entre Karaline et le dragon réincarné, mais au moins, il ne s'enfuit pas. Très calme, Katsuane approcha de Rand et le gifla à la volée. Mine eut le souffle coupé par ce spectacle.
« Ne recommence pas !»
dit la Aes Sedai d'un ton glacial.
« Tu m'entends ? Plus de torrents de feu ! Jamais !»
Bizarrement, Rand se contenta de masser sa joue endolorie.
« Tu avais tort, Katsuane. Il est réel. J'en suis certain. Oui, je le sais. »
Plus bizarrement encore, le jeune homme semblait tenir à ce que la Aes Sedai le croit. Mine en eut le cœur serré. Il entendait des voix, avait-il dit un jour, et c'était à ça qu'il devait faire référence. Oubliant qu'elle tenait un couteau, elle tendit la main droite vers Rand et ouvrit la bouche pour lui souffler quelques paroles de réconfort. De réconfort ? Voilà un mot qu'elle aurait bien du mal à prononcer innocemment désormais. Derrière Rand, Padan Fain bondit hors de la brume, une lame brillant dans son poing.
« Dans ton dos !»
cria Mine. Elle désigna le danger de la pointe du couteau serré dans sa main droite et lança celui qu'elle tenait dans la gauche. Tout se déroula à une vitesse folle. Rand commença à se retourner et Fain dévia un peu sa course pour lui sauter dessus. À cause de ce mouvement, le couteau de Mine manqua sa cible. En revanche, la dague incurvée de Fain entailla le flanc gauche de Rand. Une simple coupure, peut-être incapable de faire plus qu'abîmer sa veste. Pourtant, le jeune homme poussa un cri de bête blessée à mort et, se tenant le côté, s'écroula contre Katsuane. Au lieu que la sœur l'empêche de s'étaler, ce fut lui qui l'entraîna dans sa chute.
« Écarte-toi de mon chemin !»
cria une des sœurs. Samitsu crut reconnaître Mine avant que ses genoux se dérobent. En percutant le sol, en même temps que Karaline, elle grogna, tandis que la noble dame se laissait aller à crier un tonitruant
« Par le sang et le feu !»
tout en même temps et dans le flou du brouillard.
« Laissez-moi passer !»
cria de nouveau Samitsu. Au même moment, Darline bondit sur Fain. Mais le petit homme, bougeant à une vitesse stupéfiante, se jeta au sol, roula sur lui-même, se releva et s'enfonça dans le brouillard en riant comme un dément. Mine se releva avec peine.
« Écoute-moi bien, Aes Sedai !»
dit Karaline, moissonnée par sa chute.
« Je ne tolérerai pas d'être traitée ainsi. Je suis Karaline Damodred, haute chair de... »
Mine cessa d'écouter. Un peu plus haut sur la pente, Katsuane, assise par terre, avait posé la tête de Rand sur ses genoux. Au pire, le coup de Fain n'avait pu faire qu'une entaille sans gravité, alors, criant d'effroi, Mine se précipita, écarta Katsuane, Aes Sedai ou non, elle s'en fichait, et prit Rand dans ses bras. Les yeux clos, il respirait mal et il était brûlant de fièvre.
« Aidez-le !»
cria Mine à Katsuane, sa voix faisant écho à des hurlements désespérés montant du brouillard. Un appel au secours qui n'avait rien de très logique, après qu'elle avait poussé la Aes Sedai de côté. Mais la peau de Rand semblait lui brûler la paume des mains.
« Samitsu, vite !»
lança Katsuane. Elle se leva et ajusta son châle.
« Il est bien au-delà de mes aptitudes pour la guérison. »
Elle posa une main sur la tête de Mine.
« Fillette, je n'ai pas l'intention de le laisser mourir avant de lui avoir appris les bonnes manières. Alors cesse de pleurer.
quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'elle était sûre que Katsuane ne s'était pas servi du pouvoir sur elle, Min lui fit confiance et l'écouta. Enseigner les bonnes manières à Rand? Eh bien, ça n'allait pas être de la tarte. Lâchant le jeune homme à contre-cœur, Min recula sur les genoux. Très étrange, vraiment. Alors qu'elle n'avait même pas eu conscience de pleurer, les propos rassurants de Katsuane avaient suffi à tarir ses larmes. Tandis qu'elle s'essuyait les joues avec la paume d'une main, Samitsu s'agenouilla près de Rand et posa les mains sur son front. Pourquoi ne lui prenait-elle pas la tête à deux mains, comme faisait Moiraine? Rand eut un spasme, le souffle haché, et agita si violemment les bras qu'il bouscula la sœur jaune, la faisant tomber en arrière. Dès que le contact entre eux fut rompu, il se calma. Approchant, Min constata qu'il respirait un peu mieux. Mais il n'avait pas rouvert les yeux, et sa peau, bien qu'un peu plus fraîche qu'avant, restait encore brûlante et d'une pâleur terrifiante.
« Quelque chose ne va pas, »
marmonna Samitsu en se redressant. Elle écarta la veste de Rand, puis déchira sa chemise à l'endroit de la coupure. Pas plus longue que sa main et peu profonde, la nouvelle plaie traversait la vieille cicatrice mal guérie. Même dans la pénombre, Min vit que les lèvres de la récente blessure étaient boursouflées et enflammées, comme si on avait négligé de la soigner pendant des jours et des jours. Bien sûr, elle ne saignait pas, mais elle aurait dû ne plus être visible. C'était ce qu'on pouvait attendre de la guérison. En un clin d'œil, les chairs se recousaient et redevenaient lisses comme avant.
« Cette cicatrice, »
dit Samitsu sur un ton pédant,
« ressemble à un kyste, mais rempli d'un fluide maléfique et non de pus. L'autre plaie semble pleine d'un mal différent, mais tout aussi dévastateur. »
Voyant que Katsuane la dévisageait, l'air réprobateur, Samitsu se mit sur la défensive.
« Katsuane, si je savais quel mot employer, je ne me gênerais pas pour le faire. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Mais laisse-moi te dire une chose, si j'avais été moins rapide, et peut-être même si tu n'avais pas tenté de le soulager avant moi, cet homme serait déjà mort. Cela précisé... »
La sœur jaune soupira, défaite.
« Cela précisé, je crois qu'il mourra quand même. »
Min secoua la tête et voulut crier « non », mais sa langue refusa de bouger. Tenant à deux mains un bras de Darlene, comme si elle avait besoin d'aide pour tenir debout, Caroline murmura une prière. Les yeux baissés sur Rand, le seigneur, troublé, tentait de donner un sens à ce qui se déroulait sous ses yeux. Katsuane se pencha pour tapoter l'épaule de Samitsu.
« Tu es la meilleure de toutes, et peut-être même de tous les temps. En matière de guérison, personne ne t'arrive à la cheville. »
Samitsu hocha la tête, se redressa, et redevint en un clin d'œil un modèle de sérénité et de calme. Les poings plaqués sur les hanches, Katsuane regardait Rand, avec une rage loin d'être digne d'une Aes Sedai aguerrie.
Allons donc, mon garçon. N'imagine pas que je vais te laisser mourir devant moi.
On eût dit que Rand était responsable de son piteux état, pour le malin plaisir d'ennuyer la grande Katsuane. Cette fois, au lieu de poser une main sur la tête de Min, la sœur verte le tapota du bout d'une phalange.
Debout, gamine. Tu n'es pas une mauviette. N'importe quel idiot le verrait au premier coup d'œil. Alors, cesse de faire comme si. Darlene, tu vas le porter. Les pansements attendront. Ce brouillard ne semblant pas vouloir nous quitter, c'est nous qui allons lui fausser compagnie.
Darlene hésita. Finalement convaincue par l'air renfrogné de Katsuane, ou par la main que leva Caroline, comme si elle entendait le gifler, il rengana son épée, marmonna entre ses dents, puis hissa Rand en travers de son épaule. Min ramassa l'épée au héron et la glissa dans le fourreau qui pendait à la taille du jeune homme.
« Il en aura besoin, »
dit-elle. Après une courte réflexion, Darlene acquiesça. Une bonne initiative. Après avoir placé toute sa confiance sur Katsuane, Min n'aurait pas permis que quelqu'un voie les choses différemment.
« Tu vas devoir être attentif, Darlene, »
dit Caroline, une fois que Katsuane eut lancé l'ordre de se remettre en chemin.
« Si tu restes bien derrière moi, je te protégerai. »
Darlene faillit s'en étouffer de rire, et il gloussait encore quand la petite formation, lui au centre avec Rand sur une épaule et les femmes en cercle autour d'eux, s'engagea de nouveau dans la brume d'où montaient toujours des cris lointains. Consciente de n'être rien de plus qu'une perdue, tout comme Caroline, qui avançait sur l'autre flanc de Katsuane, Min savait pertinemment que son couteau ne lui servirait à rien face aux créatures composées de brume. Mais pas d'Anfein était peut-être encore dans les environs, et elle ne comptait pas le rater deux fois. Son arme au poing, regardant Darlene peiner pour gravir la pente avec un tel poids sur le dos, Caroline semblait elle aussi bien résolue à défendre le dragon réincarné. Ou l'homme qui le portait? Contre un rire si charmant, n'importe quelle femme aurait été prête à oublier la longueur démesurée d'un nez. Des monstres formés de brouillard, apparurent de nouveau devant les fugitifs, des boules de feu se chargeant de les éliminer. À un moment, une créature indéfinissable, sur leur droite, coupa en deux un cheval hennissant de douleur, avant qu'une des Aes Sedai ait eu le temps d'intervenir. Après ce drame, Min eut l'estomac révulsé, et elle n'en conçut pas l'ombre d'un remords. Des gens mouraient, certes, mais ils étaient venus ici de leur plein gré. S'ils l'avaient voulu, le soldat le plus insignifiant aurait pu déserter la veille. Pas ce pauvre équidé. Des créatures de brume apparaissaient et crevaient, des gens succombaient, très loin de là, semblait-il. N'était que le petit groupe passait fréquemment à côté de restes déchiquetés, qui était encore un homme ou une femme une heure plus tôt. Min commença à se demander si elle reverrait la lumière du jour. D'un seul coup et sans avertissement, ses compagnons et elle émergèrent de la brume, sous un ciel limpide et un soleil si brillant qu'ils durent se protéger les yeux pour ne pas être éblouis. À environ 2 lieues de là, Caerien se dressait fièrement à l'horizon. La jeune femme eut le sentiment que la cité n'était pas réelle. Se retournant, elle vit que le brouillard formait comme une muraille sur une moitié de la colline. Épais et sombre, il ressemblait à une frontière indestructible. Pourtant, sur la droite, un arbre devint soudain bien plus visible, comme si la brume battait en retraite, ou était dissipée par le soleil. Mais le processus était bien trop lent pour être naturel. Les Aes Sedai comprises, tous les compagnons de Min observaient le phénomène. À 20 pas sur leur gauche, un homme marchant à 4 pattes sortit du brouillard. Le devant du crâne rasé, il portait une cuirasse noire cabossée. Sans doute un homme du rang, donc. Tournant frénétiquement la tête, il ne parut pas voir Min et les autres et continua à avancer, toujours à 4 pattes. Sur la gauche du groupe, 2 hommes et une femme jaillirent à l'air libre. À sa robe rayée sur le devant, Min reconnut une noble kérienienne, mais sans pouvoir estimer son rang. L'ourlet de sa robe relevé aussi haut qu'il était possible, la fuyarde parvenait à courir aussi vite que ses 2 compagnons. Aucun des 3 ne regardant sur les côtés, ils dévalèrent la colline comme des fous, trébuchèrent plusieurs fois, se relevèrent sans perdre de temps, et finirent par disparaître dans le lointain. Caraline étudia un moment la lame de sa dague, puis elle rengaina l'arme.
« Et voilà comment s'est volatilisée mon armée, »
soupira-t-elle.
« Si tu consens à l'appeler, il y a une armée en Théar, »
dit Darline, Rand toujours inanimée sur son épaule.
« C'est une possibilité, »
souffla Caraline, les yeux rivés sur le dragon réincarné. Darline se tordit le cou pour voir le visage de son fardeau.
« La route est par là, »
dit Katswane, toujours très pragmatique.
« Un peu à l'ouest. Ce sera plus facile que de couper à travers les collines. Une vraie promenade. »
Min n'aurait certainement pas utilisé ce mot. Après le brouillard glacé, la chaleur semblait 2 fois plus étouffante, et elle fut très vite trempée de la tête aux pieds, sa vitalité semblant l'abandonner en même temps que la sueur. Se prenant les pieds dans des racines, elle s'étala face contre terre, se releva, trébucha sur une pierre, retomba, se leva encore, s'en mêla tout simplement les jambes et se prit un nouveau gadin. Ses genoux se dérobant sous elle sans raison, elle se retrouva assise sur les fesses et glissa sur une bonne 40aine de pas. Parvenant à s'accrocher à un arbuste, elle évita par bonheur de descendre ainsi jusqu'au pied de la butte. Caraline tomba aussi souvent qu'elle, voire davantage. Les robes n'étant décidément pas faites pour les randonnées sauvages, la noble dame, après un spectaculaire roulé-boulé qu'elle finit troussée comme une oie, n'hésita pas à demander à Min le nom de la couturière qui lui confectionnait ses vestes et ses pantalons. Darline ne s'écroula pas. Trébuchant au moins aussi souvent que les 2 femmes, il faillit s'étaler plusieurs fois, mais à chaque occasion, quelque chose sembla le rattraper au dernier moment et l'aider à recouvrer son équilibre. Au début, en bon haut seigneur de Théar, persuadé de pouvoir porter Rand sans aide, il foudroya du regard les Aes Sedai. Mais elles firent mine de ne pas s'en apercevoir. Comme s'il s'agissait effectivement d'une promenade, les sœurs bavardaient tranquillement, ne glissaient jamais, et secouraient Darline avant même qu'il ait essayé de ne pas se casser la figure. Quand le petit groupe atteignit enfin la route, le « bon haut seigneur » semblait à la fois reconnaissant et grognon. Se campant au milieu de la route en terre battue, Katswane joua les sémaphores et arrêta le premier véhicule qui se présenta. Un chariot branlant tiré par 2 mules mangées aux mouches et conduit par un fermier famélique en veste rapiécée qui tira vivement sur ses rênes. Qui croyait-il donc avoir rencontré ce type édenté? Eh bien, 3 Aes Sedai au visage sans âge, reconnaissables aussi à leur châle, qui était peut-être descendu un peu plus tôt d'un carrosse. Une kérienienne de haut rang, à en juger par le nombre de rayures sur sa robe, qui pouvait tout aussi bien être une mendiante, vêtue de haillons jetés à la poubelle par une vraie dame. Un noble de Théar à la barbe pointue, qui portait un autre homme sur son épaule, lui accordant autant d'attention qu'à un sac de patates. Et Min, les genoux de son pantalon déchirés et une manche de sa veste ne tenant plus que par quelques fils. sans parler du trou sur son postérieur, miraculeusement caché par le bas de cette même veste. Sans attendre que quiconque d'autre prenne l'initiative, Min tira un couteau de sa manche, manquant finir de l'arracher, puis jongla avec, comme le lui avait appris Tom Marilyn, la poignée finissant par se loger en souplesse dans son poing serré.
« Nous voulons être conduits au Palais du Soleil !»
annonça-t-elle, avec une autorité que Rand lui-même lui aurait enviée. Parfois, se montrer direct permettait d'économiser beaucoup de palabres.
« Mon enfant !»
intervint Katsuane.
« Je suis sûr que Kiruna et ses amis feraient tout ce qui est en leur pouvoir, mais parmi elles, il n'y a pas de sœur jaune. Samitsu et Corel sont vraiment les deux meilleurs de l'histoire, ou presque. Dame Marilyn a eu la bonté de nous prêter un palais en ville. » Et c'est là que nous devrions...
« Non !»
coupa Min, sans savoir où elle avait trouvé le courage de jeter ce mot à la face d'une telle dame. Mais après tout, d'Ed Rand qu'il s'agissait.
« S'il se réveille, quand il se réveillera, découvrir un endroit inconnu et des Aes Sedai tout aussi peu familières, eh bien, qui sait comment il réagirait? Je suis sûr que vous n'avez aucune envie de le savoir. »
Un long moment, Min soutint le regard de l'Aes Sedai, qui finit par acquiescer.
« Au Palais du Soleil !»
dit Katsuane au fermier.
« Aussi vite que peuvent aller ces sacs à puces. »
Bien entendu, ce ne fut pas si simple, même pour une Aes Sedai. À la tête d'une cargaison de navets miteux, qui les comptait bien vendre en ville, Andertol n'avait aucune intention d'approcher du palais. Un endroit, expliqua-t-il, où le seigneur dragon dévorait des gens, préalablement cuits à la broche par des aïels de 10 pieds de haut. Même pour un régiment de sœurs, il n'aurait pas pris le risque de finir sous la dent d'un cannibale. Tout changea quand Katsuane, après lui avoir lancé une bourse dont il étudia le contenu avec des yeux ronds, lui annonça qu'elle venait d'acheter ses navets et de louer son chariot et ses services. S'il n'aimait pas le principe, Tol pouvait toujours rendre la bourse. Les poings plaqués sur les hanches, Katsuane avait l'air d'être décidé à manger son chariot et ses mules, s'il refusait. En homme raisonnable, Andertol capitula. Samitsu et Nyande déchargèrent le chariot, les pauvres navets lévitant dans les airs avant d'aller former un dérisoire tas sur le sol. À voir l'expression des deux sœurs, elle n'avait jamais songé à utiliser le pouvoir de l'unique à de telles fins. Pourtant toujours rande, Darlene parut soulagée qu'on lui ait épargné cette corvée-là. Sur son siège, Andertol, la mâchoire pendante, tapotait la bourse, comme s'il doutait d'avoir fait une bonne affaire, tout bien réfléchi. Quand tout le monde fut installé dans le chariot, la paille des navets servant de lit à Rand, Katsuane s'assit à côté du jeune homme, en face de Min. Dès que Maître Tol eut fait claquer son fouet, les deux mules se révélèrent bien plus vives et puissantes que prévues. Le chariot brinqueballa horriblement, comme si ses roues, en plus d'être mal fixées, n'étaient pas tout à fait rondes. Regrettant de ne pas avoir gardé un peu de paille pour son postérieur, Min rit sous cap en voyant Samitsu et Nyande se rembrunir à mesure que les leurs se faisaient maltraiter. Ravie de voir des Aes Sedai ainsi bousculés, Caroline, haute chère de la maison d'Amodred, ne se priva pas de leur sourire malicieusement. Pourtant, elle souffrait plus des chaos qu'elle, car elle était projetée plus haut à cause de son petit poids, et retombait donc plus douloureusement encore sur ses fesses. S'accrochant à un côté du chariot, Darlene prenait les aléas du voyage avec philosophie. En revanche, il continuait à regarder nerveusement Katsuane et Rand. La sœur verte semblait elle aussi ne pas se soucier d'être ballottée comme un vulgaire sac de patates.
« Maître Tol, »
dit-elle,
« j'entends bien arriver avant la tombée de la nuit. »
Du coup, les chaos augmentèrent encore.
« Et maintenant, Jaycee, dis-moi ce qui est arrivé. » La dernière fois que ce garçon s'est réveillé entouré d'Aes Sedai inconnus.
Rand aurait voulu que cette histoire reste secrète le plus longtemps possible. Mais il agonisait, et ses trois femmes étaient sa seule chance de s'en sortir. Connaître la vérité ne les aiderait peut-être pas, mais qui était Min pour en être sûr?
Elles l'ont enfermé dans un coffre.
Sans savoir comment continuer, mais certaine qu'il le fallait, et sans comprendre comment elle réussissait à ne pas éclater en sanglots, mais elle n'allait pas craquer une nouvelle fois alors que Rand avait besoin d'elle, Min improvisa et raconta le calvaire de son ami. Des coups que lui flanquaient les sœurs avant de l'enfermer de nouveau, jusqu'au moment où Kiruna et les autres s'étaient agenouillés pour lui jurer allégeance. Alors que Darlene et Caroline semblaient stupéfiées, Samitsu et Nyande ne cachèrent pas qu'elles étaient horrifiées. Mais pas pour la raison qu'imaginait Min, finit-elle par découvrir.
« Il a calmé trois sœurs ?»
s'écria Samitsu. Se détournant, elle se pencha d'un côté du chariot et vomit, vidant elle aussi son estomac. Katsuane, elle, écarta du bout des doigts une mèche de cheveux qui tombait sur le front de Rand.
« N'aie pas peur, mon garçon, »
souffla-t-elle.
« Ces sœurs m'ont compliqué la tâche, sans parler de la tienne, mais je ne te ferai pas plus de mal que nécessaire. »
Min en eut un frisson glacé. Aux portes de la ville, les gardes voulurent intercepter le chariot, mais Katsuane ordonna à Maître Tol de ne pas s'arrêter. Les mules, stimulées par les claquements de fouet, le véhicule fonça dans les rues, forçant les passants à s'écarter. Dans un concert d'insultes, la course folle continua, des chaises à porteurs se renversant sur le chemin du chariot et des carrosses allant finir leur course dans les étals des boutiques. Enfin, le véhicule s'engagea sur la rampe qui menait au Palais du Soleil, devant lequel des hommes de Dobraine vinrent se camper, comme s'ils s'attendaient à devoir repousser des hordes d'envahisseurs. Alors que Maître Toll criait qu'il ne faisait qu'obéir à des Aes Sedai, les soldats reconnurent Mine, puis ils virent Rand. Dès lors, tout s'accéléra encore plus, comme si le temps avait changé de rythme. Une vingtaine d'hommes vinrent essayer de sortir Rand du chariot. Ceux qui réussirent à le toucher, délicat comme s'il manipulait un bébé, le soulevèrent et lui firent un brancard avec leurs bras. Tandis qu'ils le portaient dans des couloirs qui parurent à Mine plus interminables que jamais, quatre soignés dut leur répéter un millier de fois que leur seigneur n'était pas mort. Sortant de toutes les pièces et des couloirs latéraux, des nobles au visage blême regardèrent passer la curieuse procession. Mine s'avisa qu'elle avait perdu trace de Caroline et de Darline, évanouie depuis que le chariot s'était arrêté. Leur souhaitant mentalement bonne chance, elle les oublia en un clin d'œil. Seul Rand comptait. Dans le monde entier, lui seul importait. Nandera et plusieurs promises gardaient la porte des appartements du jeune homme. Quand la farde d'Araïsma y vit son caracarne, son impassibilité d'Aiel vola en éclats.
« Que lui est-il arrivé ? »
cria-t-elle. D'autres promises gémirent tout bas, entonnant quasiment un chant funéraire.
« De calme !»
lança Katsuane en tapant dans ses mains.
« Toi, ma fille, il a besoin de son lit. Et que ça saute !»
Nandera ne se le fit pas dire deux fois. En un clin d'œil, Rand fut installé entre ses draps, Samitsu et Nyande penchés sur lui. Après avoir chassé tous les Kyrieniens des appartements, Nandera répéta à ses promises les instructions de Katsuane. Rand ne devait être dérangé sous aucun prétexte. Sonné par ce tourbillon d'événements, Mine songea qu'elle avait hâte d'assister à l'inévitable confrontation entre Katsuane et Sorilea. Un spectacle qui promettait d'être mémorable. Cela dit, si la sœur verte espérait éviter toutes les intrusions, elle en fit pour ses frais. Car alors qu'elle faisait léviter un fauteuil pour l'approcher du lit de Rand, Kiruna et Bera déboulèrent en trombe, incarnation de la fierté et du pouvoir. Une reine et une paysanne, peut-être, mais toutes deux aussi autoritaires.
« Qu'ai-je entendu dire ?»
lança Kiruna, furieuse. Puis elle vit Katsuane et en resta bouche bée, tout comme Bera, à la grande surprise de Mine.
« Il est entre de bonnes mains, »
dit la sœur verte.
« Sauf si l'une de vous a développé un don pour la guérison. »
Oui, Katsuane.
Et non, Katsuane,
dirent les deux sœurs. Mine sentit sa propre mâchoire béer. Samitsu tira un fauteuil près du lit, arrangea sa robe et s'assit, les mains croisées, afin de regarder la poitrine de Rand se soulever sous le drap. Nyande alla prendre un livre sur une étagère et s'assit près d'une fenêtre. Lire, dans ces circonstances. Kiruna et Bera firent mine de s'asseoir, puis elle regarda Katsuane, attendant qu'elle les y autorise d'un signe de tête agacé.
Pourquoi restez-vous à ne rien faire ?
Explosa Mine.
C'est la question que j'allais poser,
dit Amis en entrant dans la chambre. La jeune matriarche aux cheveux pourtant blancs observa Rand un moment, puis elle tira sur son châle foncé et se tourna vers Kiruna et Bera.
Vous pouvez vous retirer,
dit-elle.
Kiruna, Sorilea désire encore te voir.
Kiruna se rembrunit, mais elle obéit, tout comme sa compagne, en murmurant un oui Amis dégoulinant de soumission.
Intéressant,
dit Katsuane, quand les deux sœurs furent sorties. Elle croisa le regard d'Amis, le soutint, et parut satisfaite par ce qu'elle y avait lu. Mine n'aurait pas juré que la réciproque était vraie.
« Je crois que j'aimerais rencontrer cette Sorilea. Une femme de tête, vraiment, très forte. La plus forte que j'ai connue, »
répondit Amis, très calme, à croire que Rand ne gisait pas inconscient devant elle.
« Je ne sais rien sur votre façon de guérir, Aes Sedai. Mais j'imagine que vous avez fait tout ce qui s'imposait. »
Un ton tranchant. Amis supposait, certes, mais elle était loin d'être sûre.
« Oui, tout a été fait, »
confirma Katsuane.
« Il ne reste plus qu'à attendre. »«
Jusqu'à ce qu'il meure !»
lança une voix d'homme, faisant sursauter Mine. Dashiva entra à son tour, son visage très ordinaire distordu par la colère.
« Flynn !»
lança-t-il. Nyande en laissa tomber son livre. Elle que rien ne troublait d'habitude. Levant les yeux, elle regarda les trois hommes en veste noire, comme si le ténébreux venait de faire irruption dans la chambre. Blanche comme un linge, Samitsu psalmodia ce qui semblait être une prière. Obéissant à Dashiva, Flynn le grisonnant boitilla jusqu'au lit, choisit le côté opposé à celui où se trouvait Katsuane, et passa les mains au-dessus du corps de Rand, à un pied de distance du drap. Le troisième homme en noir, Narishma, se campa près de la porte. Le front plissé et la main sur le pommeau de son épée, il tentait de surveiller les trois Aes Sedai en même temps. Et Ami s'en prime. Il ne semblait pas effrayé, mais au contraire superbement confiant, et attendant que ses femmes osent lui montrer ouvertement leur hostilité. Contrairement aux sœurs, Amys ignora les Ashaman, à l'exception de Flynn. Très calme, elle suivit chacun de ses gestes, son pouce caressant le manche de son couteau en disant long sur ses intentions, au cas où quelque chose lui déplairait.
« Que lui fais-tu ? »
demanda Samitsu en se levant d'un bond. Bien qu'elle fût très mal à l'aise en présence d'Ashaman, l'inquiétude pour son patient prit le dessus.
« Oui, toi, Flynn, ou quel que soit ton nom !»
La sœur jaune voulut approcher du lit, mais Narishma lui barra le chemin et la retint par un bras, quand elle essaya de le contourner.
« Un autre garçon mal élevé, »
marmonna Katsuane. Des trois sœurs, elle était la seule que la présence des Ashaman ne semblait pas inquiéter. Très calme, les mains croisées, elle les observait avec un intérêt d'entomologiste. Vexée par la remarque de la sœur verte, Narishma lâcha Samitsu, qui essaya de nouveau de passer et se fit une fois encore interceptée. Elle dut se résigner à regarder par-dessus l'épaule de la chamane.
« Flynn, que lui fais-tu ? Je ne laisserai pas un ignorant tuer cet homme, tu m'entends ?»
Mine ne tenait quasiment plus en place. Elle ne voyait pas un Ashaman tuer Rand, en tout cas pas délibérément, mais le jeune homme se fiait à ses fidèles, certes. Par la lumière, même Ami se semblait avoir des doutes. Flynn abaissa le drap sur le torse de Rand, dévoilant la blessure, qui ne semblait ni plus grave ni moins infectée. Le patient, lui, paraissait dormir.
« De toute façon, »
dit Mine,
« il ne peut pas lui faire grand mal dans l'état où il est. »
Personne ne se soucia de son opinion. Dashiva se raclant la gorge, Flynn se tourna vers lui.
« Tu vois quelque chose, Ashaman ?»
demanda-t-il.
« Tu sais bien que je n'ai aucun talent pour la guérison. C'est toi, sur mon incitation, qui t'es formé. »«
Quelle incitation ?»
s'écria Samitsu.
« Je répète que... »« Du calme, Samitsu !»
lâcha Katsuane. Dans la chambre, à part Amis, la sœur verte était la seule à conserver le contrôle de ses nerfs. Et à voir la matriarche continuer à jouer avec le manche de son couteau, Mine n'aurait pas juré qu'elle ne bouillait pas intérieurement.
« Je suis sûr qu'il n'a aucune intention de faire du mal au garçon. »« Katsuane !»
intervint Nyande.
« Cet homme est un... du calme ! Combien de fois devrais-je le répéter ?»« Je vous assure que Flynn sait ce qu'il fait, »
dit Dashiva, courtois mais ferme.
« En réalité, il est capable d'exploits qui dépassent de loin les possibilités des Aes Sedai. »
Samitsu eut un soupir sonore. Hochant la tête, Katsuane se rassit dans son fauteuil. Flynn passa un doigt le long de la nouvelle plaie, puis sur la vieille cicatrice.
« Ce sont des plaies semblables, mais pas identiques. Comme s'il y avait deux sortes d'infections à l'œuvre. Mais il ne s'agit pas d'infection, c'est de... eh bien, de l'obscurité. Je n'arrive pas à trouver un meilleur mot. »
Flynn haussa les épaules, les yeux rivés sur le châle aux franges jaunes de Samitsu. La sœur le regarda, sourcils froncés, mais il y avait désormais du respect dans ses yeux.
« Continue, Flynn, »
dit Dashiva.
« S'il meurt... »
Le nez plissé comme pour bloquer une mauvaise odeur, l'homme semblait incapable de détourner le regard de Rand. Recommençant à marmonner tout seul, il émit un moment un son qui tenait du sanglot et du ricanement, tout ça sans cesser de paraître aussi impassible qu'une statue. Inspirant à fond, Flynn jeta un regard circulaire dans la pièce. Quand il vit Mine, il sursauta, et son visage parcheminé s'empourpra. Puis il remonta le drap, le tortillant de manière à ne plus laisser à l'air libre que les deux blessures.
« J'espère que personne ne trouvera gênant que je parle, »
dit-il en passant les mains sur le flanc de Rand.
« Ça m'aide à être plus efficace. »
Front plissé, il se concentra sur les blessures, ses doigts se pliant comme s'il était en train de tisser des fils. Puis il reprit d'une voix qui sembla distante et distraite.
« Si je suis venu à la tour, c'est à cause de la guérison, pour ainsi dire. Avant, j'étais soldat, mais j'ai pris une lance dans la cuisse. Et après, impossible de rester longtemps en selle, ou même de marcher sur une longue distance. Ce fut ma 15e blessure en 40 ans de service dans la garde royale d'Antor. La 15e digne d'être mentionnée, en tout cas. Quand on peut marcher ou chevaucher, ça ne compte pas. Durant ces 40 ans, j'ai vu beaucoup d'hommes mourir. Une fois, à la tour, le MAL m'a enseigné la guérison, entre autres choses. Une variante très dure, je dois dire. Il y a bien 30 ans de ça, j'ai été guéri par une Aes Sedai. Et c'était beaucoup moins douloureux. Mais les résultats sont aussi bons. Un jour, lors d'une conversation, Dashiva, je veux dire la chamane Dashiva, s'est demandé tout haut pourquoi c'était toujours la même chose, qu'un homme se soit cassé la jambe ou qu'il ait un rhume. De fil en aiguille, nous avons... Eh bien, il n'est pas doué pour la guérison, mais il lui a paru que moi, j'avais le don. Après réflexion, je me suis dit... Pourquoi pas? Bien, j'ai fini. Impossible de faire mieux.
Dashiva grogna au moment où Flynn, s'asseyant sur les talons, s'essuya le visage du revers d'une main. La première fois que Min voyait un achaman transpirer. Sur le flanc de Rand, la coupure était toujours là, mais moins boursouflée et plus rose que rouge. Toujours endormi, le jeune homme semblait moins pâle. Samitsu parvint enfin à tromper la vigilance de Narishma.
« Que lui as-tu fait ? »
demanda-t-elle, en posant une main sur le front de Rand. Elle fronça les sourcils, sursautant, comme si ce qu'elle venait de découvrir avec le pouvoir la stupéfiait.
« Que lui as-tu fait ? » ?»«
Pas grand-chose, hélas. Je ne peux pas intervenir vraiment sur ce qui cloche. En quelque sorte, j'ai refermé ses plaies provisoirement. J'insiste sur ce « provisoirement ». Les deux blessures se combattent désormais. Si elles se tuent l'une l'autre pendant qu'il guérit, il sera débarrassé des deux poisons. Mais je ne peux pas garantir qu'il ne sera pas le premier à mourir. Quoi qu'il en soit, ses chances de survivre se sont améliorées.
« Oui, »
approuva Dashiva, franchement pompeux.
« Il a une chance, à présent. »
À croire que le mérite lui en revenait. À la grande surprise de Flynn, Samitsu contourna le lit pour venir l'aider à se relever.
« Il faudra que tu me dises ce que tu as fait !»
déclara-t-elle d'un ton supérieur, qui collait mal avec sa façon de redresser le col du vieil chaman et de lisser les revers de sa veste.
« Si tu pouvais me montrer, ce serait encore mieux. Mais une description sera mieux que rien. J'y tiens. Pour ça, je te donnerai tout mon or, ou je porterai tes enfants, comme tu voudras. Mais je dois connaître tous tes secrets. »
Sans être bien certaine elle-même de ce qu'elle venait de faire, exigée ou quémandée, elle tira le pauvre Flynn à l'écart. Trop occupée à lui tirer les vers du nez, elle ne s'aperçut pas qu'il tentait par moments de parler et continua à le bombarder de questions. Se fichant de ce qu'on en penserait, Min alla s'étendre sur le lit, enlaça Rand, calant la tête du jeune homme sous son menton. Discrètement, elle entreprit ensuite d'étudier les trois personnes réunies autour du lit. Katsuane toujours dans son fauteuil, Amis debout en face d'elle, et Dashiva appuyée à un des montants. Des auras et des images apparurent à la jeune femme, mais sans qu'elle puisse les interpréter. À l'évidence, Amis anticipait un désastre pour les Aiel, si Rand mourait. Et Dashiva, le seul qui trahissait un peu ses sentiments, craignait une catastrophe pour les Achaman. Quant à Katsuane, connue et crainte de Kiruna et de Bera, elle les faisait obéir au doigt et à l'œil, malgré leur serment prêté à Rand. Et elle entendait ne pas faire souffrir celui-ci plus que nécessaire. Son regard croisant celui de la sœur verte, Min frissonna. D'une façon ou d'une autre, et tant qu'il en serait incapable lui-même, elle protégerait Rand. Oui. Elle le défendrait contre Amis, contre Dashiva et contre Katsuane. En fredonnant une chanson de son enfance, Min berça tendrement Rand. D'une façon ou d'une autre, oui.